Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, je suis avec Harold David. Bonjour.
Bonjour.
Directeur du Festival Est-Ouest et du Théâtre de Die, nous allons parler de la saison culturelle, l'ouverture de la saison culturelle 2014-2015, voire même tout en fait.
Oui, enfin, ça ouvre effectivement la saison du mois de novembre jusqu'au mois de juin. Donc ça va forcément inclure aussi d'autres événements qu'on organise maintenant, comme la fête de la transhumance et, je l'espère, les espiègleries.
Avec donc un nouveau programme édité, avec une très belle photo de danseuse dessus. Un programme rouge et noir. Moi, j'aime beaucoup le rouge et noir, je trouve que ça va très bien. Il est bien moins clinquant qu'avant. Une certaine sobriété, n'est-ce pas ?
Écoute, c'est ta perception que j'entends. On n'a pas cherché spécialement à faire sobre. Il ne me semble pas que les autres étaient particulièrement tape à l'œil, mais bon, si c'est reçu comme ça, très bien. On a flashé effectivement sur cette photo de Danielle Alnouma, donc, qui est chorégraphe et danseuse, et qu'on va accueillir au mois d'avril au Théâtre de Die avec une de ses dernières créations qui s'appelle Minara, et qui est effectivement une création où la femme, comme le suggère l'affiche, est au cœur, enfin le visuel du programme, pardon, est au cœur du spectacle, et notamment dans ce spectacle de danse, donc elle va explorer la figure de la femme musulmane dans nos sociétés contemporaines de manière chorégraphique. Et c'est une artiste qu'on connaît un petit peu maintenant au Théâtre de Die, puisque elle avait été invitée à faire une création lors du dernier Festival Est-Ouest sur la Finlande, donc qui avait été présentée là au mois de septembre et qui avait énormément plus et toucher le public. Donc je pense que ce sera vraiment un très très joli moment de danse et de création.
Ce sera
au mois d'avril, je crois que c'est le 28 avril, si ma mémoire est bonne, mais je dis peut-être des bêtises, alors je vais vérifier. Non, c'est ça, le 28 avril à 20h.
Voilà pour le visuel qui invite à lire ce programme. Il y a aussi une autre petite nouveauté dans le logo TDD. Il y a écrit Scène Régionale Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un label que le Théâtre de Die a obtenu en 2013. Alors, c'était déjà présent quand même sur les
Du coup, ça se voyait moins.
Saison.
Tu vois, le rouge, c'est...
Ouais, ça ressort mieux. effectivement, ce label Scène Régionale, c'est un label qui est octroyé par la région Rhône-Alpes, qui distingue donc 39 lieux de spectacle sur l'ensemble de la région. Donc ça fait l'objet d'une convention spécifique avec un cahier des charges spécifique aussi pour les lieux qui sont distingués par ce label.
Et en quelques mots, ce cahier des charges ?
En quelques mots, ça recoupe pas mal des objectifs qui étaient les nôtres de toute façon, sauf que ça les met en avant et surtout ça les renforce avec du coup une implication un petit peu plus importante de la région et puis de nos autres partenaires dans le financement du projet global du théâtre, mais qui sont d'une part de privilégier évidemment le théâtre comme un espace de création et pas seulement de diffusion, donc de pouvoir permettre à des spectacles de voir le jour au théâtre. Donc ça se traduit concrètement par des résidences, pas dans notre cas parce que malheureusement on n'en a pas les moyens, mais dans d'autres lieux qui sont labellisés, c'est aussi de la coproduction directe sur les spectacles avec un apport de fonds dans la coproduction. Nous, on n'a malheureusement que la possibilité de faire du préachat, c'est-à-dire avant que le spectacle soit créé, de préacheter le spectacle et puis effectivement de pouvoir accueillir des compagnies en résidence. Mais donc voilà, il y a cet axe de création qui est vraiment important dans le cahier des charges et qui, évidemment, rejoint la dimension de diffusion qui est inhérente à tous les lieux. Et puis un axe vraiment fort aussi sur tout ce qui va concerner l'action culturelle, la médiation et les relations qu'on peut créer entre les artistes, leurs œuvres et puis les publics du territoire sur lequel la scène régionale est implantée. Donc tout ça, c'est des choses qu'on faisait avant le label, et c'est aussi parce qu'on le faisait avant que
c'est passé.
On a pu être reconnu entre guillemets pour pour ce travail-là grâce à la labellisation. Mais disons que voilà, ça a amplifié et renforcé cette dimension qui faisait de toute façon partie du projet artistique et culturel du théâtre avant la labellisation. L'avantage que ça a eu pour une structure comme la nôtre et donc pour le théâtre de Die, c'est que ça a donné lieu à une convention signée donc par notre association, la ville et puis la région Rhône-Alpes qui est sur 4 ans. Donc du coup, ça permet de projeter aussi quand même le projet du théâtre sur une logique de pérennité, ce qui n'était quand même pas gagné avant. Pour être tout à fait clair avec les auditeurs d'Erdiwa, si on n'avait pas réussi à obtenir cette labellisation, je pense qu'il n'y aurait plus de théâtre de Die, en tout cas avec le projet qui était celui qu'on a initié en 2011. Ça a été vital pour nous de défendre auprès des élus de la région et de la direction de la culture la nécessité de ce label pour ce lieu. Ça a permis aussi une implication plus importante, même si elle l'était déjà, bien évidemment, de la ville par rapport à ce théâtre municipal. Et ça a permis aussi l'implication de la communauté de communes du financement du projet. Et ça, c'est vraiment le label qui a permis de créer cette dynamique et de fédérer une bonne partie de nos partenaires institutionnels, notamment les collectivités locales.
Qu'il n'était pas avant, sous prétexte d'ailleurs que le théâtre n'était que Diwa ou que
pour la communauté de communes, tu veux dire
oui, ou même d'un point de vue régional.
La région a soutenu le théâtre dès le départ.
Dès le départ, parce que oui, vous faisiez tout un tas d'activités, par exemple auprès du lycée. Le lycée étant géré par la région, il y a forcément un moment.
Dès le début, dès 2011, la région est entrée dans le financement, mais à un niveau moindre que ce qu'il est actuellement, qui a été augmenté grâce à la labellisation, parce qu'ils ont une enveloppe financière spécifique pour les scènes régionales qui leur permet de mieux accompagner ces lieux qu'ils choisissent de distinguer. Mais la région était déjà présente dès le début, et heureusement, parce que voilà, chaque partenaire vraiment à notre échelle compte. Là où ça a été effectivement un changement, c'est pour la communauté de communes qui jusqu'alors ne participait pas du tout financièrement. Là, la labellisation a fait que depuis l'année dernière, donc 2013, ils accordent une subvention de 10 000 euros qui n'existait pas auparavant.
Et par ailleurs, cette labellisation scène régionale n'impose pas non plus en termes de programmation qui est une espèce de... plus particulièrement, par exemple, des compagnies Rhône-Alpine.
Alors, ce n'est pas imposé, c'est incitatif, on va dire. C'est-à-dire qu'évidemment, pour la région, il y a l'idée que ce réseau de scènes régionales permette plus facilement aux compagnies Rhône-Alpine qu'elle soutient par ailleurs de pouvoir être diffusées sur le territoire rhône-alpin. Parce que c'est vrai que beaucoup de compagnies de Rhône-Alpes, par exemple, tournent. Mais pas nécessairement sur leur territoire d'origine. Et il y avait cette volonté aussi qu'au travers de ce réseau, il y ait une diffusion facilitée. Alors après, on n'a pas de quotas, on n'a pas...
Vous êtes encore libre.
Oui, on est tout à fait libre dans ses choix. Et d'ailleurs, ouais. Cette idée d'indépendance dans les choix artistiques, elle fait partie des obligations de la Convention. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas parce que c'est moi, il se trouve que, bon, en l'occurrence, je suis jusqu'à présent le directeur du théâtre par mes fonctions au sein de l'association, mais le label est lié au projet que je porte, moi, en tant que directeur, garant d'une ligne artistique, etc., développée au sein des actions du théâtre. C'est-à-dire que si demain, moi, je pars, je quitte mes fonctions, le label ne sera pas forcément annulé, mais il sera suspendu le temps que la région examine un nouveau projet porté par un autre directeur ou une directrice. Et en fonction de ce projet, le label perdurera ou pas. Donc c'est vraiment lié, pour le coup, à la personne du directeur du lieu et à l'identité de sa programmation. Et ça va aussi en lien, parce qu'actuellement, il y a pas mal de lieux en Rhône-Alpes depuis les dernières élections municipales qui...
souffrent un peu.
Enfin, qui souffrent, qui ont carrément vu pour certains leurs projets artistiques et culturels remis en cause par une nouvelle équipe arrivante, voire certains qui ont carrément été mis à la porte. Hein, ça s'est vu, ça s'est fait. On n'est absolument pas dans ce type de relation-là, nous, avec la ville de Die, que ce soit avec l'ancienne majorité et puis celle actuellement. On est vraiment dans une logique de coopération, j'espère que, et de confiance, et j'espère que ça va continuer ainsi, parce que c'est essentiel quand on gère une délégation, un service public, qui est cette concordance de vision, enfin de point de vue, entre le délégataire et puis son mandataire, donc en l'occurrence la ville. Mais par exemple, si il y avait une forme, je sais pas, d'interventionnisme, voilà, des élus, je pourrais, moi, signifier à la région que je ne dispose plus d'autonomie suffisante pour mettre en œuvre le projet qui justifie le label.
Et l'autonomie de programmation, en fait, puisqu'on parlait de
tout
ça.
Tout à fait, voilà. Sur l'autonomie des choix. Et dans ce cas, la région pourrait à nouveau décider de retirer son label. Bon, je ne pense absolument pas que nous serions. Risquons d'être dans ce cas de figure ici sur le DIY.
Mais il y a quand même ce contrôle.
Mais il y a quand même ce contrôle, et ça, c'est effectivement intéressant pour faire en sorte qu'effectivement il y ait une affirmation d'un projet. Après, on peut critiquer le projet, on peut envoyer plein de choses dessus, mais en tout cas que la notion de projet définie, choisie à un moment donné, soit pérenne et soit protégée d'une certaine manière par, à l'intérieur de ce label.
Alors, on a parlé de la pérennisation du projet en tant que projet artistique. On a souvent évoqué effectivement sur cette antenne les difficultés que le théâtre traversait, que l'association Est-Ouest traversait à gérer le théâtre dans les conditions qu'elles étaient, en tout cas jusqu'à maintenant. Tu as aussi évoqué 10 000 euros qui arrivent de la communauté de communes par an. Est-ce que le reste, c'est vraiment une assise financière qui va pérenniser aussi l'activité de l'association?
Pour l'instant, non. L'équilibre reste extrêmement précaire et fragile. On a eu dernièrement une réunion avec nos différents partenaires pour évoquer ces questions-là. Un problème qui est originel depuis qu'on a repris le théâtre de sous-financement du théâtre de Die par rapport aux missions qui lui sont confiées et à son projet. C'est dû à la spécificité aussi de notre territoire, où les ressources du territoire sont limitées. Enfin, on n'est pas dans une.
Est-ce que le projet n'est pas trop grand, alors ?
C'est pas une question de grandeur, de taille de projet. C'est une question, à mon sens, de prendre en compte la réalité de ce que c'est que le fonctionnement d'un équipement culturel, d'un théâtre municipal, quel que soit le projet. Parce que nous, notre problématique, elle n'est pas tant pour de financer le projet en tant que tel, c'est-à-dire les spectacles qu'on va programmer, les actions qu'on va mettre en place. Enfin, c'est notre métier d'aller chercher des moyens pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions et de mettre en œuvre le contenu. Le problème de base qu'on a, mais qu'ont beaucoup de structures culturelles ou associatives, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir faire fonctionner un théâtre à l'année, on est 5 permanents actuellement, sachant qu'on ne fait pas que on n'a pas que le théâtre de Die à gérer, puisqu'on organise aussi le festival Est-Ouest, le festival des Espiègleries et le festival la fête de la transhumance. On est 5 permanents, voilà, à plein de temps. 5 permanents, c'est une masse salariale fixe qui constitue un frais fixe, un coût de fonctionnement qui est inhérent à le fonctionnement d'un théâtre. Enfin, si que ce soit les auditeurs ou les élus qui peuvent nous écouter regardent n'importe quel organigramme d'un théâtre municipal, 5 personnes, c'est vraiment le minimum pour que fonctionner. Le personnel, c'est quoi? C'est un directeur, un administrateur comptable, une chargée de projet qui gère tout ce qui va être éducation nationale, etc., et la programmation jeune public, un accueil secrétariat billetterie et un chargé de communication. Voilà, c'est des 5 postes clés pour faire fonctionner de base. Voilà.
Il n'y a même pas de programmateur dans le tas.
C'est compris dans la fonction du directeur et puis de ses collaborateurs. Mais voilà, nous, notre problématique, elle est celle-là, et elle est sur le fonctionnement, vraiment, qui n'a pas été suffisamment bien financé au départ, depuis qu'on a repris la délégation en 2011. Et tout ça, c'est lié à plein de paramètres qui sont historiques, je dirais. Il faut savoir que du temps où le théâtre était géré par les eaux de passage, donc la compagnie de Jacques Couturau qui a fondé le lieu. Des financements publics, aujourd'hui, si on les met en regard les uns des autres, on est à un tiers de moins aujourd'hui.
Ah oui, ça a carrément été réduit.
Oui, parce qu'il y a eu 2 ans de vacances sur ce lieu, où, entre le moment où la compagnie de passage est partie en 2008 et où nous, on l'a repris en 2011, il y a eu 2 ans où les moyens sont... Comme il n'y avait plus d'activité, les moyens, enfin chacun a retiré ses billes, comme on dit, pour les redistribuer sur d'autres équipements ou d'autres projets. Et au moment où on a ressuscité ces moyens, ils n'étaient plus là, ils n'étaient plus fléchés. Et dans les périodes de contraction budgétaire, et c'est le cas depuis, ça ne date pas de 2014, hein, ça fait quelques années qu'on est dans ce contexte-là quand même, bah forcément, on a eu du mal à retrouver ces moyens-là. Enfin, on ne les a pas retrouvés, pour être clair. Et donc, du coup, on est héritier de cette situation un peu compliquée et donc on a bon espoir quand même. Voilà, pour terminer sur une note optimiste sur cet aspect un peu technique, de l'autre côté du rideau, quoi, si je puis dire.
Mais ça réfléchit, ce discours-là est aussi quand même plus entendu.
Oui,
je me rappelle d'émissions qu'on a fait il y a 2 ans où c'était un peu bouché. Quoi.
Oui, tout à fait. Ça évolue. Heureusement, nos interlocuteurs prennent conscience au fur et à mesure d'une part du travail fourni, de la dimension structurante de cet équipement et de ce qu'il apporte en valeur ajoutée à ce territoire. Et donc, effectivement, il y a une volonté politique d'essayer de trouver des solutions à cette problématique qui doit pouvoir se solutionner, parce qu'on n'est quand même pas sur des montants non plus délirants. Voilà, pour être clair, à peu près entre 30 et 40 000 euros qui manquent pour assurer un fonctionnement correct à l'année, sans pénaliser les contenus, justement, puisque pour l'instant, notre stratégie a été plutôt d'alléger effectivement tous les coûts sur lesquels on pouvait avoir le levier facile, c'est-à-dire forcément les budgets artistiques, parce que c'est ce qui est plus facile. Hein. On se dit, on va faire moins de spectacles, on va prendre des spectacles moins chers. Enfin, voilà, c'est assez facile comme décision, en tout cas plus facile que de se dire qu'on va
virer quelqu'un.
Envoyer quelqu'un ou diminuer son temps de travail. Ouais, mais on arrive au bout de cette logique-là, donc la réflexion effectivement sur comment mobiliser des moyens nouveaux. Je ne sais pas, donc je ne vais pas du tout faire d'effet d'annonce, mais je ne sais pas si ça va aboutir, je le souhaite ardemment. Il y a une réflexion en tout cas qui est en cours entre la ville de Die, la communauté de communes du Diois et l'État via la DRAC Rhône-Alpes pour mettre en place à partir de 2015 une convention de développement culturel territorial à l'échelle du Diois qui impliquerait les équipements structurants du territoire, donc pas seulement bien évidemment le théâtre, mais aussi des équipements qui sont presque tous par la force des choses dans le giron de la ville de Die aujourd'hui, hein. C'est le musée, c'est pour mettre en place cette convention qui permettrait d'abonder un peu ces moyens et de trouver en tout cas une réponse à notre problématique à nous sur un plan économique.
Voilà pour ce petit tour d'horizon.
Grand tour même.
Grand tour.
Raconte pas ça tous les jours.
Justement, au moins une fois, à chaque fois qu'on vous a en interview, on avance petit à petit sur les coulisses, comme tu disais, derrière le rideau, ce qu'il se passe. Cette saison s'ouvre, alors je me fais un auto-cocorico par une soirée improvisée, une demande inédite et impromptue d'Air Diwa qui veut fêter son anniversaire le 22 novembre. Donc voilà, je le redis là, on fera le 22 novembre au Théâtre de Die, puisque vous nous accueillez gentiment. Ce sera les 3 ans de la radio.
Mais ouais, c'est pas que gentiment, bien sûr, on est plein de sympathie à l'égard d'Air Diwa, mais si on le fait aussi, c'est parce que je pense que si le développement de ce territoire, il passe aussi par la mutualisation des moyens, la mutualisation des projets. Je veux dire, nous, théâtre, on a besoin d'avoir...
Une radio,
oui, bien sûr, à la fois en termes de diffusion d'informations par rapport à ce qu'on fait, mais aussi pour justement avoir un espace pour raconter tout ce que je viens de dire sur le fonctionnement d'un lieu comme le nôtre. Il n'y a pas d'autre espace possible. On ne va pas faire une tribune dans la presse pour ça, on ne va pas envoyer des communiqués de presse. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une radio de proximité pour des équipements de proximité. Enfin, on est tous chacun à notre place, des outils structurants de ce territoire, et donc pour nous, c'était tout à fait logique et je dirais de l'ordre de l'évidence que à partir du moment où vous nous sollicitiez pour fêter cet anniversaire au théâtre, qu'on réponde présent, parce que sinon ça n'aurait pas de sens pour nous de s'autoproclamer équipement de proximité et puis de ne pas jouer la carte de la proximité quand elle se présente.
Donc un vrai soutien, plus que de la sympathie même, on pourrait dire. Et puis de la logique d'entraide.
Tout à fait.
Merci cependant. Vous attaquez le lundi 24 novembre, c'est l'ouverture de la saison. Alors, dans la présentation du programme, est-ce que peut-être tu aurais envie, toi, de mettre en lumière plus particulièrement tel ou tel événement,
plutôt que de feuilleter
le programme,
je parle pas vraiment de thématique, c'est plus des fils rouges qui se dessinent au fur et à mesure du choix des spectacles et puis ou inconsciemment voilà espèce de fil comme ça sur lequel on tire qui au bout d'un moment finit par donner une cohérence et une couleur dans les choix de programmation. Donc là effectivement il y en a deux qu'on peut identifier assez aisément, me semble-t-il. Le premier, il est illustré finalement par la première proposition, donc ce spectacle de Francis Huster autour de la figure d'Albert Camus, parce qu'il nous semble qu'Albert Camus, dont on a célébré le centenaire de la naissance, je crois, l'an dernier, incarne une certaine façon d'être un artiste dans le monde et dans la façon dont il a signifié son engagement, que ce soit dans ses écrits, dans sa vie publique, de citoyen, de journaliste aussi, et que sur cette question de l'engagement et de comment l'art peut se faire écho d'un monde qui ne cesse d'être en mutation, en mouvement, etc. Voilà, ça nous semblait une bonne entrée en matière d'avoir cette figure emblématique qui regarde un peu toute la saison. Et effectivement, on a plusieurs spectacles qui sont en prise avec une forme d'actualité contemporaine, en tout cas avec le monde tel qu'il on peut le considérer aujourd'hui.
Alors le théâtre de 10 se met à critiquer la société.
Non, c'est pas l'idée, c'est pas de. Enfin, moi, je considère pas que notre rôle est d'être dans la critique. On est là pour faire des propositions qui vont éclairer le regard, nourrir la réflexion.
On connaît des théâtres, pardon de te couper, mais qui vont passer que des grands classiques, nous ressasser des Molières super bien refaits, très modernes, ouais, etc. Mais sans forcément venir toucher. Des aspects géopolitiques, politiques ou sociétales.
Oui, oui, encore que je pense que des auteurs comme Molière ou d'autres ont été suffisamment visionnaires, c'est pour ça qu'ils sont restés dans l'histoire du théâtre pour
bien rattraper,
pour raisonner avec le monde d'aujourd'hui. Néanmoins, sans être critique, si on peut susciter une réflexion critique, tant mieux. Moi, je considère que notre métier, c'est de faire des propositions de regard artistique sur effectivement un certain nombre de choses qui peuvent concerner les gens de manière intime ou citoyenne ou politique, etc. Et après les gens font leur on fait pas de la comment dirais-je de la on fait pas de prosélytisme, c'est ça que je veux dire.
On va pas vous taxer de militantisme.
C'est une forme de militantisme de mon point de vue, mais pas au sens on va proposer une vision qui est la bonne. Voilà, c'est en ça que je me distinguerais un peu de dire oui, on fait une critique sociale. Encore une fois, notre travail, c'est de faire des propositions, de créer toutes les conditions pour que le public puisse s'emparer de ces propositions au mieux et qu'ensuite chacun, avec ça, soit nourri et pour le coup, s'engage s'il estime que c'est nécessaire sur tel ou tel sujet ou parce qu'il aura été alerté ou sensibilisé justement par le biais d'un spectacle. L'intérêt que des artistes soit en lien avec le monde d'aujourd'hui ou une actualité contemporaine, c'est qu'ils sont dans une approche qui est forcément différente d'une approche journalistique, par exemple, ou informative, et que normalement, enfin, me semble-t-il, ce qui intéresse l'artiste, c'est d'avoir une approche sensible de ces problématiques-là. Et donc, c'est en ça que ça me semble intéressant qu'il y ait des lieux de culture et qu'on soit là pour faire découvrir, en tout cas, ces regards sensibles. pour revenir concrètement à la programmation par rapport à ça.
Donc ce premier thème un peu de...
Voilà, ce premier thème d'engagement, ça, il se traduit au travers de plusieurs spectacles. Le spectacle de danse dont on a parlé tout à l'heure, Minara, en fait partie, puisque c'est...
Elle questionne la femme musulmane.
Voilà, tout à fait, de manière chorégraphique et donc évidemment sensible par le mouvement, par une grande force émotionnelle dans ce spectacle qui permet de s'interroger justement sur la femme musulmane, puisque c'est effectivement le sujet de ce spectacle. Dans la même veine, ou dans le prolongement, si je puis dire, on va accueillir pendant 2 mois, donc ça c'est le gros projet de résidence de l'année au Théâtre de Die.
Création.
Voilà, une création avec le spectacle, enfin la compagnie, donc la Fabrique des Petites Utopies, qui va présenter 2 spectacles. Un qui s'appelle La Nuit des Arbres Dansent, qui est un spectacle de contes pour les enfants égarés dans les jardins. Voilà, c'est le sous-titre de leur spectacle que j'aime beaucoup, parce que pour l'avoir vu, ça ressemble bien effectivement à leur travail.
Ça va être angoissant.
Non, parce que justement, on n'est pas tout seul dans ces jardins grâce à ce spectacle.
C'est vrai.
Et on retrouve son chemin, ou en tout cas un chemin peut-être perdu justement vers ce lien avec les arbres, puisque c'est la thématique du spectacle, qui mêle 4 contes en fait de traditions différentes, des 4 continents en quelque sorte, et aussi des 4 saisons et de 4 arbres différents qui vont chacun raconter des histoires spécifiques et faire réfléchir tout un chacun. Et c'est vraiment un public qui peut évidemment être vu, un spectacle pardon, qui peut évidemment être vu par les enfants dès 6 ans, mais qui marche très très bien pour les adultes qui se seraient pas encore trop égarés de leur enfance.
Je sais pas si les auditeurs perçoivent ton sourire quand tu nous parles de ça.
Non, parce que j'ai passé un excellent moment en découvrant ce spectacle. C'est pour ça que c'était un vrai bonheur de, non pas de replonger en enfance, mais de retrouver une forme d'innocence qu'on peut avoir en étant enfant dans son rapport à la nature. Et je trouve qu'ils ont très très bien rendu ça dans le spectacle.
En mêlant plusieurs techniques, d'ailleurs, je vois qu'il y a marionnettes, mais ils sont eux-mêmes acteurs aussi sur scène.
Voilà, tout à fait. Oui. C'est vraiment un spectacle presque pluridisciplinaire où on est sur une structure de conte, mais c'est joué, c'est effectivement de la marionnette, il y a du masque aussi. Voilà, tout ça qui sont des techniques qui sont beaucoup utilisées depuis longtemps par la compagnie La Fabrique des Petites Utopies et son metteur en scène Bruno Turcuire. On les accueille en résidence pendant 2 mois dans un cadre un petit peu différent de d'habitude, puisque cette compagnie a la spécificité le reste du temps d'être plutôt nomade et d'avoir un camion théâtre, donc une structure itinérante qui se promène un peu partout et que les spectacles soient présentés dans cette structure. Et donc pendant 2 mois on va avoir 2 théâtres finalement au Théâtre de Die, la salle habituelle et puis cette salle éphémère du camion théâtre. La Nuit des Arbres Dansent, le spectacle dont je viens de parler, sera présenté donc au Théâtre de Die, et au fin février on accueillera, puisque ça c'est en janvier, fin février on accueillera donc une création, c'est-à-dire le spectacle qu'ils vont véritablement travailler pendant 2 mois ici à Die et présenter pour la première fois au public donc à Die, qui s'appelle Rue des Voleurs. Alors pour le coup, eux ils sont vraiment dans une démarche de critique, ils appellent ça d'ailleurs un théâtre révolté, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là aussi on va être au travers de ce spectacle en prise avec des réalités récentes d'une part d'un point de vue historique, mais aussi toujours quotidienne malheureusement pour certains autres aspects du contenu du spectacle, puisque le spectacle raconte l'histoire d'un jeune Marocain qui va se retrouver chassé de chez lui, voilà, refoulé par sa famille, et qui va être confronté historiquement aux événements récents qui ont secoué toute cette partie-là du monde au moment du printemps arabe. Voilà. Ouais. Il va être confronté aussi à la question de l'exil et de tous ces habitants, en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée, qui cherchent un avenir meilleur sur
en
nos
France,
côtes.
En France,
ouais. Voilà, ou en tout cas en Europe, et qui sont prêts à traverser à n'importe quel prix, y compris leur propre vie.
Pour trouver des vies pas terribles chez nous.
Voilà. mais qui semblent néanmoins moins pires et qui constituent toujours un Eldorado rêvé pour ceux qui essayent de partir. Au-delà de ça, le spectacle aborde aussi, va aborder aussi la question de l'embrigadement, de cette jeunesse qui est dépourvue d'avenir, dépourvue de de projection possible dans une vie adulte. Et donc, du coup, le risque, la tentation de basculer dans un embrigadement extrémiste qui est aussi d'actualité. Et voilà, le spectacle parle vraiment de tout ça. Interroge aussi la jeunesse et voilà, comment nos sociétés, qu'elles soient occidentales ou des pays du Sud, envisagent cette jeunesse et qu'est-ce qu'elle lui offre comme perspective. Voilà, et c'est donc une sorte de voyage initiatique qui va être dans son traitement spectaculaire assez intéressant, puisque ça mêle à la fois du travail circassien avec des artistes de cirque. Le héros sera d'ailleurs joué par un circassien marocain d'une école de cirque importante à Casablanca. Et puis du théâtre, bien évidemment, de la vidéo, enfin voilà, tout ça pour une création à découvrir pendant deux soirées, le 27 et le 28 février. Voilà. Ça, c'était le premier axe, un peu, voilà, engagement, on parle du monde d'aujourd'hui, tout ça, tout ça. Et puis on en a un deuxième, alors qui n'est pas complètement déconnecté finalement du premier,
non
mais
plus, ouais.
Qui aborde les choses d'une manière un peu différente. Il se trouve qu'on a eu. Qu'on a fait le choix de plusieurs spectacles qui abordent la question du genre, du masculin, du féminin, qui est là aussi un débat qui a un peu agité les esprits il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc notamment avec un spectacle qui s'appelle Femme verticale, donc qui est une création de la compagnie des Lumas qu'on avait accueilli il y a deux ans pour Les Bonnes de Jean Genet.
Ah oui.
Et donc là, Eric Massé, le metteur en scène, revient avec un spectacle dans lequel il est lui-même sur scène. C'est un seul en scène et où il interprète une créature hybride, un transgenre, voilà, qui ne différencie plus l'appartenance sexuelle de l'être, mais la confond. Et au travers de ce personnage, il retrace toute l'histoire de la lutte des femmes pour conquérir leurs droits, la reconnaissance dans la société, etc. Que ce soit le droit d'avortement, le droit de vote, enfin bref, toutes les luttes qui ont pu exister. Et tout ça au travers de textes d'auteurs femmes contemporaines. Et donc ça a l'air un peu intello comme ça, mais c'est absolument pas le cas. Le spectacle est extrêmement ludique, extrêmement drôle et tout à fait accessible. Enfin voilà, c'est vraiment un spectacle où on rit beaucoup au travers de ce personnage et de tout ce dont il se fait l'écho. Et dans un autre registre qui lui aussi est très ludique, sur le registre de la comédie, on va accueillir le Théâtre du Fenouillet, donc qui est une compagnie dromoise, avec au mois de mai, le 14 mai, donc la Nuit des Rois de Shakespeare, qui déjà en son temps abordait toutes ces questions-là, puisque dans cette pièce, il n'est question que de travestissement, d'hommes qui sont pris pour des femmes et inversement, enfin voilà. Et ça, c'est tout ça sur un mode très très drôle et léger et populaire. Voilà, et donc on a ces deux axes un peu, enfin, Eminara. Le spectacle de danse dont je parlais tout à l'heure les rejoint aussi, voilà, qui structure, on va dire, la saison. À côté de ça, il y a évidemment d'autres propositions. Une qu'on va faire au mois de mars en faveur des musiques actuelles et du dub, puisque avec Psycho by Dub, on va organiser la troisième Winter Bass Session avec plusieurs groupes de dub, donc, qui vont se produire sur la scène du théâtre de Die. Un moment attendu par les amateurs de dub, puisque l'hiver dernier, voilà, j'y arrive, c'était au mois de février 2014, on avait accueilli plus de 450 personnes qui étaient venues profiter de cette soirée, donc on remet le couvert avec grand plaisir. Dans un autre registre de musique, on va accueillir au mois de décembre donc Anima, donc, qui est un oratorio d'Antonio Placer, donc plutôt de la musique contemporaine, enfin, ça fait toujours peur, musique contemporaine, mais ça veut juste dire que le compositeur
n'est pas encore mort.
Voilà. Ce qui ne veut pas dire que pour autant c'est de la musique
bizarre
et pas du tout accessible et réservée à des spécialistes. Non, là il y aura 40 choristes, puisque c'est le chœur universitaire de Valence qu'on accueille, qui va être sur scène, qui vont interpréter cet oratorio que va lui-même diriger Antonio Placer, puisqu'il sera présent. Et donc ça sera au mois de décembre, le dimanche 7.
Vous accueillez un opéra aussi?
Alors, on n'accueille pas, malheureusement. Un jour, ça viendra peut-être qu'on puisse accueillir un opéra. On renouvelle notre partenariat avec la Comédie de Valence, donc on a depuis plusieurs années.
Ah oui, j'ai mal lu. Voilà, donc c'est hors les murs.
C'est hors les murs, voilà, où on emmène trois fois cette saison les spectateurs du théâtre de Die voir des spectacles à la Comédie de Valence. Donc il y a effectivement cet opéra de Bach qui s'appelle Trauernacht, qui est proposé au mois de février. Mmh. Également, il y aura un spectacle danse-théâtre avec Sandrine Bonner, donc le Miroir de Jade. Donc on pourra emmener des spectateurs, donc ça c'est le 14 janvier. Et puis le troisième, c'est un spectacle de théâtre autour de la pièce d'Henrik Ibsen qui s'appelle Petit Eyolf, et ça c'est au mois de mars. Voilà, donc ça c'est les trois rendez-vous qu'on a avec la Comédie de Valence, pardon, sachant qu'on a un autre partenariat. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer, ce spectacle, dans les spectacles dits engagés ou qui parlent du monde d'aujourd'hui, etc. C'est un spectacle qu'on va accueillir en décembre qui s'appelle My Brazza, qui mêle théâtre et danse et qui s'adresse à la jeunesse, mais pas seulement. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il aura lieu hors les murs, puisque les représentations sont proposées à la cité scolaire. En fait, elles se font dans une salle de classe. Donc, ce sera un peu inédit comme proposition. Et on fait ça en partenariat avec la Comédie de Valence, la Comédie itinérante, pour un spectacle donc mis en scène par David Bobet, qui dans la Drôme, il est un petit peu connu, puisque c'est lui qui a mis en scène Lucrèce Borgia cet été au Nocturne de Grignan. Ouais. Donc il a mis cette petite forme en place avec le danseur et comédien Florent Maoukou, qui est originaire de Brazzaville, donc au Congo. Et donc c'est de l'Afrique dont il sera question au travers de ce spectacle.
Pas mal de danse toujours dans le cadre de danse au fil d'avril, mais aussi dans d'autres cadres.
Oui, il y a pas mal de danse ou de formes qui mêlent danse et théâtre, danse et théâtre. Musique, effectivement.
Ouais.
En conte, on va aussi avoir L'autre et moi, donc avec la compagnie La Fabrique d'Histoire, qui est une compagnie là pour le coup d'Ivoise, dont on avait accueilli une première version du spectacle dans le cadre de nos mises à disposition il y a 2 ans, je crois, et là qui revient avec une nouvelle version qui nous a bien plu et que du coup on a eu envie de défendre à nouveau au travers cette fois d'une programmation effective dans la saison. Les tout petits, les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'il y a beaucoup de propositions aussi en direction du jeune public, notamment avec en mois de décembre un spectacle qui s'appelle Bulle, voilà, qui mélange théâtre et musique, qui est vraiment pour les tout petits dès la crèche en fait. On a également du cirque qui sera présenté au mois de juin dans le cadre de la fête de la transhumance avec la compagnie Cirque Hirsute, voilà, qui est connue aussi sur le territoire avec leur dernière création qui s'appelle Les Butors, et toujours fin juin, on terminera avec une soirée festive dans le cadre de la fête de la transhumance également, avec le groupe Coco Sunshine, qui lui emmènera le public du côté plutôt des rythmes capverdiens, enfin voilà, des choses plutôt dansantes et festives.
Et si on voulait parler uniquement des compagnies qui sont dans le coin, il y en a quand même quelques-unes, Coco Sunshine, bon, Saillant, le Cirque Hirsute, enfin bref, sont pas si loin, tu parlais de L'autre et moi, enfin tout ça, il y a quand même encore un bon travail aussi avec ce qui se passe localement.
Bah oui, parce qu'il y a des artistes tout à fait intéressants et qu'il convient d'accueillir au théâtre. Voilà, c'est vrai que c'est encore une fois, moi je pense que c'est pas exclusif cette relation avec les compagnies locales. Il faut qu'il y ait un équilibre qui soit juste, et puis surtout que les propositions, voilà. Et leur place, et qu'elles soient du territoire ou pas, elles ont tout à fait vocation à être programmées si c'est le cas.
Une autre annonce qui me semble être notée au Théâtre de Die, quelque chose qui se passe, ce serait une compagnie de jazz qui vient chanter, c'est dans quel cadre ça?
Oui, alors c'est pas tout à fait une compagnie de jazz, c'est un groupe vocal. Qui fait de la chanson française qui s'appelle Courant d'air, et ça c'est en fait dans le cadre de nos mises à disposition, c'est-à-dire des choses qu'on ne programme pas, mais on a des sollicitations de compagnies de la vallée de la Drôme et du Diwa qui souhaitent venir présenter leur travail au Théâtre de Die, donc Courant d'air qui sera sur la scène le 16 novembre, donc à 17h, avec un spectacle de chansons françaises, eh bien, fait partie des mises à disposition. Mais on a aussi, dès le 9 novembre, notre collaboration avec les Amis des Arts qui présentent l'orchestre et l'harmonie l'harmonie de Chabeuil, donc sur scène. On a également un autre groupe vocal amateur, là pour le coup de Dix, qui s'appelle De Bouche à Oreille, qui va présenter aussi son travail. On aura aussi du jazz au mois de mars prochain, toujours dans ce cadre-là. Donc en plus de la programmation que je viens de décrire, voilà, il y a toutes ces propositions qui viennent s'ajouter à l'offre qui est faite au Théâtre de Die. Ce qui n'est pas annoncé dans le programme, c'est ce qui constituera, j'espère, la programmation des Espiègleries, qui auront lieu aussi, en tout cas les spectacles seront présentés aussi au théâtre. Donc voilà, ça devrait rajouter au moins deux, voire trois propositions supplémentaires. Ce qui fait qu'on a en tout à peu près un peu plus d'une trentaine en fait, de rendez-vous en termes de programmation qui sont proposés. Mais il ne se passe pas que ça au théâtre, puisque beaucoup des spectacles qui sont accueillis sont en général accompagnés d'autres rendez-vous qui viennent...
constituer l'action culturelle.
Oui, voilà, en direction des publics. Alors, il y a tout ce qu'on fait avec l'éducation nationale, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions, cette antenne, de revenir sur ce gros travail qui est mené par Isabelle Catois autour de notre programmation, parce que ça concerne quand même pas loin de 2000 jeunes chaque année du territoire qui sont concernés. Et en dehors de ça, il y a aussi pas mal de propositions qui sont faites au tout public, notamment des projections, des rencontres, des débats, des expositions le cas échéant, des stages, des ateliers de pratique, etc. Et on a même, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie de la programmation au mois de mars, donc une proposition qui est faite au public, donc de venir participer presque en direct, en live, à la création d'un spectacle de manière participative. C'est donc un travail qu'on fait avec l'artiste Jaime Jiménez, qui est plasticien, peintre, vidéaste, etc., qui travaille sur le Diwa, avec une collaboration qu'il a menée avec la compagnie Rosalib, et dont il va assurer la création scénographique. Et voilà, il y a différents temps de rencontres, d'ouverture et de participation impliquante pour le public qui sont proposés aussi. Voilà, c'est l'idée étant de mettre aussi le public dans une posture, pas seulement non pas de consommation, mais de recevoir des propositions, mais aussi d'être acteur lui-même des propositions artistiques qui sont faites.
Super intéressant ça. Alors ce programme est maintenant disponible un petit peu partout, vous commencez à le distribuer. Évidemment, on peut le retrouver sur internet en tapant Théâtre de Die. On peut évidemment téléphoner pour réserver sa place. Hein,
parce qu'il y a déjà des spectacles qui sont bien pleins. Enfin, bon, c'est un démarrage de saison plutôt agréable pour nous parce qu'on a plusieurs spectacles qui semblent intéresser les gens. Peut-être aussi le fait d'être enfin en capacité, matériel, parce qu'on aurait pu le faire les années précédentes, mais de pouvoir avoir une visibilité grâce à cette convention de labellisation dont j'ai parlé au tout début, de pouvoir sortir un programme complet de la saison du mois de novembre jusqu'au mois de juin, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité peut-être pour le public.
Oui, il était coupé en deux avant, c'est ça, ouais.
Bah oui, avant on était obligé de faire des programmations semestrielles parce que comme on savait pas de quoi allait être fait l'année suivante et que par définition une saison elle est à cheval sur deux exercices budgétaires, on était obligé d'être prudent et de faire deux programmes. Donc là, cette année, ça veut pas dire qu'on est dans l'imprudence, mais disons qu'on a un peu plus de visibilité.
D'ailleurs, est-ce qu'avec
donc on peut sortir tout d'un coup quoi.
Et est-ce qu'avec cette visibilité sur 4 ans, ça va permettre justement d'imaginer mettre un petit peu de, pour l'instant, mettre de côté un tel, mais le reprendre les années suivantes.
Oui, bien sûr, ça permet d'envisager aussi des collaborations ou des compagnonnages avec certaines compagnies de manière beaucoup plus confortable pour nous. Enfin, c'est sûr que de pouvoir se dire que au moins jusqu'en 2017, il y a cette convention qui court, etc., et que si on n'a pas de catastrophe qui nous tombe dessus, ça permet de se donner un temps qu'on n'avait pas forcément avant de prospection, de projection qui devrait normalement enrichir les choses, c'est certain.
Harold, David, merci pour cette présentation de la saison 2014-2015 au Théâtre de Die et autour, et dans un camion, et à la Comédie de Valence, et pendant la fête de la transhumance, par exemple.
Mm-hmm. Et pendant l'anniversaire.
Et pendant l'anniversaire.
D'Air Diwa, le 22 novembre.
Merci pour le coup de pub. Voilà, réservation 04 26 58 80 35, théâtrededie.com. Et puis... Allez, bon vent pour cette saison, en fait. Hein.
Ça marche.
Et on se recroise dès qu'il y a un artiste qui veut bien passer sur l'antenne. Et
tout à fait.
Ou Isabelle, bien sûr. À bientôt.
À bientôt.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.